de cuisin, la femme de cire, nouvelle allégorique. Il est donc des forfaits que le cours des dieux ne pardonne jamais. Dieu fit la nuit et les astres pour élever l'âme, échauffer le génie et entretenir dans le cœur de l'homme l'amour de la sublime sagesse. Mais l'homme audacieux, traversant partout ses desseins, détruit l'ordre qu'il avait établi et corrompt les bienfaits de la nature. De ce voile sacré d'étonnement et de respect étendu sur les merveilles de l'univers pour inspirer la vertu, il s'en fait un abri profane qui l'encourage au crime. Les scélérats cachent pendant le jour leur tête monstrueuse. Le brigand et l'assassin dorment au fond de leur caverne, de leur grotte ténébreuse, jusqu'à ce que les ombres descendent. Alors ils veillent unis et s'élancent ensemble sur la trace de leur proie. Alors les astres épouvantés les voient marcher le front levé dans les ténèbres et redoubler l'horreur de la nuit par l'horreur de leur forfait. L'avare, en fouissant son trésor, est épié par le voleur qui le déterre, et demain le malheureux se lèvera dans l'indigence. Les noirs complots, les conspirations sourdes sont éveillées. L'obscurité est seule confidente de leurs affreux desseins. Préparant loin de la lumière le désordre et la dévastation, elle médite les attentats qui doivent ébranler des royaumes, attenter à la fortune, à la vie des citoyens paisibles et affliger les familles d'homicides et de spoliations. Voici aussi l'instant où les enfants de la débauche, se plaignant encore de la clarté importune de quelques rayons rares du croissant nocturne, s'abandonnent avec fureur à leurs derniers excès et, trop souvent, versent du sang dans la coupe d'une volupté meurtrière. À cette heure même, dois-je le taire ou le publier? Pourquoi la foudre repose-t-elle oisive? À cette heure, l'infâme adultère monte d'un pas assuré dans la couche nuptiale de son amie, dont une épouse atroce médite en silence l'empoisonnement et se rit ainsi des hommes et de Dieu. C'est ainsi que les mortels insensés, toujours en contradiction avec Dieu et avec eux-mêmes, sans crainte et sans pudeur, exposent leurs crimes nus à l'œil chaste des cieux, tandis qu'ils frissonnent et pâlissent à la vue de leurs juges. Les astres de la nuit ont-ils donc été formés pour servir les scélérats? Et ne mêlent-ils aux ténèbres leurs clartés incertaines que pour guider et favoriser le poignard de l'assassin? De ces réflexions affligeantes pour l'humanité, nous sommes conduits naturellement à faire connaître les aventures merveilleuses et les prestiges inconcevables du fameux Don Parelli dit Boccanegra, l'un des plus célèbres brigands qui ait infesté les provinces de la Lombardie sous le règne des ducs de Milan et qui ne semble pas que trop souvent des voiles de la nuit pour commettre ses affreux forfaits. Don Parelli, surnommé par le peuple Boccanegra, était né à Crémone d'une famille honnête mais obscure. Il fit ses études à Milan et il s'y déploya des talents distingués, un génie brillant et précoce, et il n'était que trop facile d'y découvrir le germe des plus funestes penchants. Sa figure, toute belle qu'elle était, ne laissait pas de trahir, dans le jeu de la physionomie, la perversité de son âme. Et si effectivement, d'après le système profond du docteur Gall, nous avons des idées innées, si la nature nous donne les organes des bonnes ou mauvaises inclinations, Don Parelli porta certainement dans sa plus tendre enfance les stigmates de sa criminelle vocation. Nous prendrons notre héros à la fin de ses études, époque à laquelle ses forces physiques et son génie malfaisant à leur aurore annonçait devoir lui faire parcourir la plus monstrueuse carrière. Si ses goûts favoris avaient été de se livrer à l'étude des anciens, d'envier jusqu'au sort d'Alexandre le Grand, d'un autre côté, une disposition superstitieuse l'avait porté à approfondir avec ardeur tous les secrets de la physique instrumentale, du galvanisme pratique, ainsi que de toutes les illusions qu'employaient les oracles de l'Égypte, de la Grèce et de Rome, pour fasciner les yeux du vulgaire et se faire dans le peuple une renommée de prodige et d'être supérieur. Tous les mystères de la franc-maçonnerie dans laquelle il s'était fait recevoir lui étaient familiers. Et joignant à ses connaissances abstraites celles des mathématiques universelles, d'Archimède, de son miroir combustible et de ses feux grégeois, Dom Parelli possédait assez de sciences pour éblouir et frapper l'imagination d'un peuple aussi superstitieux que les Italiens. Ainsi, muni de toute la science kabbalistique, possédant à fond la grimoire infernale et la tactique secrète des Rose-Croix, notre héros, s'enfermant un soir dans sa chambre, prit conseil de ses destinées en ces termes. De deux tonneaux continuellement ouverts, Jupiter enverse à flot sur les humains les influences du bien et du mal, et le monde, se dit-il, dans ses sophismes, est un théâtre frivole où l'homme simple et bon devient la victime du plus fort et du plus astucieux. Entre deux rôles si opposés à jouer, prendrai-je le plus sot? Non, mes talents et mon esprit m'en détournent. Ma fortune est donc entre mes mains, si je sais habilement employer les moyens que la nature m'a prodigués. Je ne vois pas, continue-t-il dans son coupable soliloque, que je doive balancer un moment. Gengis Khan, Tamerlan, le charlatan Mahomet, ne me tracent-ils pas eux-mêmes la route de la gloire? De l'excès de mon audace résultera l'excès de ma renommée. Viens donc, fantôme protecteur, puissant génie du mal, et guide dans la carrière un de tes plus ardents prosélytes. » À cette invocation infernale, un nuage noir descendit dans l'appartement de Dom Parelli, envoila d'un crêpe funèbre toutes les parties, et une divinité charmante, la séduction, entourée d'essence et de fleurs, le sein enlacé des anneaux d'un serpent à brillantes écailles, lui tint ce discours. « Homme digne de tes hautes destinées, je te donne le pouvoir de charmer, de séduire, et à ce don je joins celui de tromper. Aucune femme ne pourra désormais résister au charme de ta voix, de tes regards enchanteurs, et l'amour favorisant tes succès, tu n'auras qu'à paraître pour voir succomber dans tes bras amoureux les Lucrèces les plus farouches. » À ce discours succédèrent les essaims de mille prestiges charmants qui naquirent sous la baguette irrésistible de la séduction. Des vapeurs délicieuses, enivrantes, embaumèrent l'air de leurs nuées odorantes, et le charme s'évanouit insensiblement au sein de la plus agréable magie. Quand cette espèce de songe fut dissipé, et qu'il ne resta dans la chambre de Dom Parelli que l'odeur de la présence de la séduction, il jeta avec étonnement ses regards de tous côtés, et aperçut avec transport sur un meuble des filtres, des poisons enivrants, des breuvages narcotiques contenus dans trois coupes de merveille équipetées et fermées hermétiquement d'un triple cadenas. « Avec ces nouvelles armes, se dit-il dans son ravissement, je pourrais donc entreprendre de séduire même une princesse. » Ses transports ne finissaient pas sur cette précieuse découverte, quand, se tournant vers son secrétaire, il vit un beau chat noir qui portait au cou cette légende « Me brûler, recueillir mes cendres, sera pour Dom Parelli l'anneau même de Gigès. » On sait à cet égard que cet anneau avait la propriété de rendre invisible le pasteur grec qui s'en munit pour voler les troupeaux de son roi. Il en coûtait à Dom Parelli d'exécuter cet ordre cruel contre un si bel animal, et qui lui apparaissait là comme une fée puissante. Mais tels étaient les ordres du grimoire infernal. Il fallait les exécuter avec une respectueuse ponctualité. Notre impie brûla donc le superbe chat noir, en recueillit les cendres dans une fiole de cristal de roche, et suivant les instructions prophétiques qu'il avait déjà reçues dans d'autres apparitions nocturnes, il mit sur son cœur la fiole diabolique, et se plaçant devant une glace, il se convainquit, avec de nouveaux transports, qu'il était devenu tout à fait invisible. Ce dévouement criminel aux divinités malfaisantes du genre humain avait encore besoin de s'investir de quelques autres cérémonies pour se rendre favorable à la cour des sylphes d'Asmodée, prince des démons, protecteur du crime et dieu tutélaire des scélérats. Dom Borelli recueillit donc dans un crâne quelques gouttes de son sang, et sur un fragment de peau humaine dérobé à des fourches patibulaires, il signa un serment épouvantable de ne pas encenser d'autres divinités, de ne pas fléchir devant d'autres autels que ceux des puissances infernales. Puis se mettant à prononcer à haute voix les plus exécrables imprécations, Dom Parelli conclut son pacte horrible avec Satan et acheva d'étouffer dans son coupable cœur les faibles semences de vertu que la nature y avait jetées. À cet engagement affreux, l'air se remplit de nouveau de vapeurs bitumineuses, d'ombres sanglantes, qui paraissaient, dans leur passage fugitif, vouloir éviter les coups d'un stylet assassin. Les éclats de la foudre se mêlèrent à ce sombre spectacle, et le prestige ne se dissipa encore qu'en laissant dans l'air un poignard magnifique enrichi de pierreries et qu'un simple cheveu suspendait au plancher. À la vue de cet acier brillant, de ces diamants étincelants de mille feux, Dom Parelli s'approche en frémissant de plaisir et de joie. Sur la lame de ce poignard était gravé en lettres de sang « À l'homicide ». « C'est donc à moi qu'il appartient de le porter !» s'écria-t-il de nouveau dans un accès frénétique. « Et si quelque homme doit s'emparer du sceptre des forfaits, n'est-ce pas Dom Parelli encore à en orner ses mains enchantées par la séduction ?» Le crime a son héroïsme, son fanatisme, et la démence forcenée de ce brigand voué aux enfers était sous ce rapport au plus haut degré d'exaltation. Cependant, un respect, une sorte de terreur arrêtait notre héros. Ce poignard était suspendu par un cheveu, et le briser sans un consentement ultérieur lui paraissait un sacrilège contre le génie du mal. Il consulte donc son grimoire infernal afin de connaître les intentions de ses sylphes protecteurs. Et à la page du parricide, il lit ces paroles. Telle que l'épée de Damoclès était attachée par un fil pour faire sentir les dangers du trône, ainsi Dom Parelli, notre cher enfant adoptif, les délits ont leur glorieux péril et la sûreté d'un assassin ne tient qu'à un cheveu. Courage, mais prudence. Dom Parelli, à ce nouveau bienfait allégorique, remercia tous les dieux du Thénard, et brisant le cheveu emblématique, il cacha dans son sein comme un trésor le principal instrument de ses forfaits. Rien ne lui manquait donc plus pour ravager la terre, nuire aux hommes et déclarer une guerre à mort au génie du bien. Moyen de séduire par trois coupes enchantées, pouvoir de se rendre invisible par une fiole magique, et plus puissant, plus affreux que ces talismans meurtriers, un fer parricide que la force et l'adresse vont enfoncer tour à tour dans le cœur de l'homme de bien ou le sein d'une jeune beauté. Une seule réflexion douloureuse empoisonnait l'enivrement de Dom Parelli. Tout irrésistible qu'il était, il se redoutait lui seul dans l'avenir de ses succès. L'idée de ses remords, le frein d'une conscience importune dont il craignait la voix accusatrice, épouvantait ses esprits. Déjà un ver rongeur semblait s'être attaché à ses entrailles, comme le vautour de Prométhée, pour ne lui laisser aucun repos au milieu de ses plus beaux triomphes. Se rappelant le sort du parricide Oreste, les serpents d'Alecto et de Tisiphone, Il marchait déjà d'un pas timide dans la carrière du crime, quand, se rappelant les bienfaits d'Asmodée, il le supplia, dans une nouvelle invocation, de l'affranchir du joug des remords. À cette prière, une voix sépulcrale lui fit cette affreuse réponse. « Le remords résiste à toutes les puissances infernales, et c'est là où triomphe le génie du bien dans le cœur du criminel. » Cette déclaration foudroyante ne laissa pas d'attrister quelque temps Don Parelli, mais étouffant bientôt ce cri intérieur et continuel qui devait toujours se faire entendre au milieu de ses plus belles victoires, il se détermina à marcher au forfait et à ne suivre que ses homicides destinés. Il recueillit donc dans une boîte d'or ses précieux caducées et, faisant divorce avec les lois, que dis-je, avec toute la nature, il s'enfonça à la faveur des ombres de la nuit dans les montagnes de Ferrare et gagna les célèbres Apennins, éternellement infestés de barbares et de bandes de brigands. Dom Parelli, ainsi qu'un jeune héros qui brûle de verser à la guerre le premier sang de sa valeur, était impatient d'essayer la pointe de son poignard. Quel saint, a-t-il l'audace de s'écrier, aura l'audace de teindre le premier cette lame redoutable, ce fer invincible, consacré par Lucifer lui-même, et dont l'Italie entière conservera un souvenir immortel? Quelle victime fumera sous mes premiers coups? L'occasion va bientôt servir ses projets. Un comte toscan, El Signor Conde de Silos, rentrait de son château et se dirigeait vers Florence. L'attaquer, le poignarder ainsi que les gens de sa suite, s'emparer de son équipage, revêtir ses habits, ses ordres, usurper ses titres et ordonner à quelques brigands subalternes qu'il avait rassemblés en un clin d'œil près d'une caverne de ces fameuses montagnes, de prendre également la livrée des laquais assassinés, et de précipiter tous ses corps sanglants dans un gouffre profond, fut pour notre héros l'affaire d'un instant. Cette manière large de faire, ce ton de supériorité que justifiait d'ailleurs pleinement son esprit actif et sa brillante audace, en imposèrent à ces scélérats de second ordre, à un point qu'ils se rangèrent avec un secret sentiment d'admiration sous les ordres de Don Parelli, et quittèrent aussitôt d'un plein accord le service d'un fameux chef de parti, Barocal, qui n'avait pas laissé de se faire une réputation assez grande dans les provinces du Bolognais. Don Parelli, s'étant fait rendre compte avec un air de pitié de ce Barocal, d'ailleurs jaloux en secret d'un rival qui lui déplaisait déjà par sa célébrité, s'informe de la retraite de cet audacieux personnage. Francelli, un des plus intelligents de la bande, se fit fort de le conduire tout près de son repère, mais, lui fait-il observer, l'attaque serait des plus dangereuses, car Barocal compte 60 meurtres par autant de bagues qu'il emporte en chapelet sur sa poitrine. La Calabre, les mers tunisiennes, n'ont pas, ajoute-t-il, de plus célèbres formants. Et vainement des troupes de ligne ont tenté d'anéantir ce fléau des villes et des campagnes. Don Parelli ne fait que sourire à ces éventes indiscrètes, et disposant sa troupe, après avoir confié ses équipages à Francelli, il marche droit vers l'antre de Barocal, comme un puissant génie qui se joue des efforts des faibles humains. Le combat fut des plus opiniâtres, mais Don Parelli, vainqueur, après n'avoir rien laissé survivre dans la caverne de Barocal, envoya au Sénat de Milan la tête de cet illustre brigand dans un coffre rempli d'or avec d'autres richesses immenses, dépouilles des vaincus, le tout au nom du comte de Silos. Puis, se dirigeant sur Modène, après avoir donné toutes ses instructions aux gens qui composaient son obreau domestique, il résolut de se jouer quelque temps dans l'élément fleuri de la galanterie et de faire des victimes d'amour en attendant de plus glorieux exploits. Voyons quel usage il va faire des talismans irrésistibles que la déesse de la séduction lui a donnés. Comment, en astucieux Lovelace, en perfide Valmont, le beau sexe va payer de ses plus précieuses faveurs et de sa réputation le faux amour d'un monstre qui n'a de la tendresse que le langage séducteur, tandis qu'au fond de son âme, le crime y épiera sa proie sous les roses du plaisir et le masque de la perfidie. À peine eut-il arrêté à Modène un superbe hôtel rue de Lodi et eut-il monté sur le plus grand ton que les personnages de la première distinction de la ville vinrent le complimenter d'avoir, par son courage, détruit le plus dangereux des scélérats de la Toscane. Chacun désira voir aussi les lettres flatteuses qu'il avait reçues à ce sujet du Sénat de Milan, avec la grande croix de l'ordre de Lombardie, dont le prince lui permettait de porter la décoration en mémoire de ce grand service rendu à la patrie. Ce ne fut d'abord que bal masqué, grand dîner, fête de toute espèce, où le faux comte, en prodiguant l'or, s'acquérait de plus en plus parmi les dames cette renommée brillante qui conduit en galanterie à de si rapides succès. Hélas, quel succès! Si l'imprudence et la coquetterie naturelle aux femmes leur font hasarder les deux tiers du chemin, quand il s'agit des spéculations de l'amour et surtout de leur amour-propre, peut-être le principal ressort de toute liaison galante, pour ces faibles délits, méritaient-elles les infortunés de payer de leur vie un moment de fausse félicité? Car plusieurs jeunes beautés, marquantes dans Modène, avaient disparu, sans qu'on sût absolument de quelle manière. Principalement au milieu du tumulte de certains bals masqués qu'avait donné Dom Parelli, trois filles de marquis et cinq charmantes baronnes ou comtesses avaient été enlevées avec une témérité prodigieuse, sans que toutes les recherches de la police eussent pu découvrir aucune trace de ces rapes audacieux. Fancelli, le valet de chambre, ou plutôt le complice, confident principal de tous ces attentats, favorisait ces forfaits et, lorsque l'enlèvement d'une jeune beauté avait été exécuté, il avait soin de faire déguiser en femme un des brigands de la bande et, sous le masque, trois autres affidés feignaient de l'enlever dans le bal même, le plaçaient sur la croupe de leurs chevaux et disparaissaient dans l'épaisseur de la forêt voisine. C'est par ces stratagèmes qu'il faisait prendre le change au public, aux magistrats, fort éloigné d'ailleurs de jeter le moindre soupçon sur l'intégrité de son caractère. Mais le fait est que le monstre, l'affreux Dom Parelli, meublait, oh, c'était son expression, son temple d'Apollon, de ces ombres sanglantes qu'il appelait, et encore par dérision, ses muses. Et pour compléter la divine assemblée, il ne lui manquait que la savante Uranie. Ce fut la jeune comtesse de Cardini qui devait être victime des plus cruelles embûches et achèverait de parfaire la galerie de ce sanglant muséum. Le lecteur éprouve sans doute une vive curiosité de connaître cette thébaïde, ce harem du trépas dans lequel Dom Parelli, nouveau Raoul, plaçait, après les avoir égorgés, les malheureuses maîtresses qui étaient tombées dans ses méèges. Eh bien, nous allons l'instruire. Sous les voûtes de son hôtel existait un caveau impénétrable aux rayons du jour. Dom Parelli l'orna lui-même, aidé de son confident. Il transporta tout ce que le luxe a le plus exquis en meubles et en somptuosité de toute nature, y établit des bains, berceaux embaumés de volupté et de délices, et ayant fait faire dans un de ses appartements une trappe à bascule, il attirait la victime sur cette trappe, et comme dans une balançoire insensible, elle se trouvait descendue au milieu d'un réduit enchanteur éclairé de 1000 bougies. Les cris, la résistance, les lamentations devenaient inutiles. Il fallait, sous le joug d'une main de fer, je veux dire l'inexorable nécessité, qu'une femme, qu'une vierge, devint la proie d'un infâme suborneur et que, lorsque le charme de la nouveauté était évanoui pour lui, elle arrosa de son sang des goûts homicides de ce monstre. Les morts ne se vengent pas, disait Don Parelli dans ses maximes atroces. Leur silence est éternel et ne laisse craindre aucune révélation. Son plaisir meurtrier était de plonger dans un bain de lait ses innocentes victimes, et d'un coup de poignard effrayant, de faire ruisseler sur cette nappe éclatante de blancheur des ruisseaux de pourpre et de sang. La nature frémit à de pareilles monstruosités, et l'enfer, qui avait établi son séjour dans le cœur de notre héros, pouvait seul les imaginer. Déjà, il était à son 8e sacrifice. Déjà, dis-je, 8 baignoires parricides, ou plutôt 8 cercueils sanglants, rangés en amphithéâtre semi-circulaire, faisaient de cette piscine un séjour d'horreur et d'épouvante, comme s'en faisait un de deuil et de désespoir pour les familles de Modène que ce brigand avait privées de leurs plus chères parentes. Cependant, il voulait absolument compléter la céleste cour d'Apollon, et ses vues ambitieuses s'étaient jetées sur la belle comtesse de Cardini, dont nous avons déjà parlé. L'entreprise était difficile. La comtesse, quoique jeune, quoique veuve, et conséquemment privée des lumières et des conseils d'un époux, était douée d'une pénétration profonde. La feinte douceur de Don Parelli, son esprit arrangé, si je puis me servir de cette expression, ses sentiments factices et la promptitude indiscrète de sa passion, au lieu de la charmer, n'avaient fait qu'alarmer sa vertu. Et les traits du crime qu'elle avait cru entrevoir sous ceux de la séduction avaient achevé d'épouvanter ses esprits prévenus. C'est donc en vain que Don Parelli chercha à mettre en œuvre toutes les galanteries imaginables, telles que fêtes brillantes, repas splendides, pour l'attirer sur le sol de ses trappes traîtresses. La comtesse avait un pressentiment trop profond de quelque catastrophe cachée dans les ombres d'un affreux avenir pour rien donner aux événements. Et lorsqu'elle reçut par la suite les visites de Don Parelli, se vit toujours en ayant soin d'armer ses domestiques et de les faire tenir cachés dans les cabinets voisins. Ainsi, vainement encore, Don Parelli avait eu recours aux coupes en vermeil de la séduction. Ses talismans avaient échoué. Et pour la première fois, ses charmes, ses philtres rencontraient des obstacles. Affligé de leur impuissance, il s'en plaignit avec respect à ces divinités tutélaires, et se prosternant devant le grimoire infernal, le poignard magique dans la main droite, il les supplia de lui apprendre si quelque mystère auguste avait été négligé dans son culte. À ces nouvelles invocations, le plafond de son appartement se couvrit de feu et des nuages noirâtres. Aucune voix protectrice ne se fit entendre. Mais, parmi les gibets et les échafauds, Don Parelli vit l'implacable Thémis, ses balances en main, accompagnée d'Isis, sa fidèle conductrice, passer d'une marche menaçante, laissant tomber sur le parquet cette sentence terrible: point de trêve avec le crime. De ce moment fatal, ses esprits furent troublés. Un tribunal, un juge, un accusateur s'établirent dans son cœur toujours déchiré de vains regrets. Son hôte elle-même l'épouvanta. Et chaque fois qu'il marcha sur les trappes assassines qui conduisaient aux 8 muses sanglantes, il lui semblait que les Euménides, en pareil nombre, le poursuivaient avec des fouets de couleuvre. Plusieurs fois même, il s'évanouit au milieu de ses transes mortelles. La sueur du crime couvrait son corps tremblant d'une humidité glacée. Ses cheveux se hérissaient. Toutes ses entrailles palpitaient d'effroi. Et son cœur, dévoré de remords, succombait dans cet état d'angoisse infernale. En vain, Franzelli lui représente le danger de ses puériles pusillanimités. Dom Parelli, se voyant abandonné du génie du mal, se croit perdu et il ne marche plus désormais au crime qu'en timide criminel. Ses pressentiments de danger étaient bien fondés. Le vrai comte de Silos, que Dom Parelli avait fait jeter dans un profond précipice des Apennins, persuadé qu'il ne pouvait survivre au coup redoublé de son poignard, avait entrouvert ses paupières au jour après une longue effusion de sang qui coulait par 20 blessures. Aucune, cependant, n'était mortelle. S'efforçant donc de rappeler ses esprits défaillants dans l'abîme où il était plongé sur les corps sanglants de ses domestiques, il use de toutes ses forces et cédant de quelques arbustes et des angles des rochers, il parvient à sortir du précipice et à se traîner sur la grande route de ces montagnes. Des villageois toscans, ayant aperçu le comte, s'approchèrent de lui, le couvrirent d'un manteau et, le plaçant sur un brancard pris au hameau voisin, ils le conduisirent dans cet état à la ville de Florence, où sa disparition subite occupait encore tous les esprits. La fable de l'imposteur qui avait à Modène usurpé son nom et ses titres faisait également l'objet de toutes les conversations. Le retour du comte assassiné renversait donc toutes les histoires forgées sur les impostures de Dom Parelli. Le vrai comte de Silos était trop mal pour être en état de recevoir les communications qui l'intéressaient à cet égard. Porté dans son hôtel, les médecins seuls eurent le droit de l'approcher et ne songèrent pendant quelque temps qu'à le faire jouir d'une parfaite guérison. Ce ne fut qu'après 2 mois de soins qu'on lui apprit qu'un impudent faussaire s'était revêtu à Modène de ses qualités et n'avait pas laissé, au milieu de tant d'audace, de faire rejaillir sur lui l'honneur d'avoir détruit le plus cruel des bandits de la Toscane. On s'instruisit aussi des récompenses que son sosie avait reçues du prince, ainsi que de tout ce que les papiers publics avaient fait connaître à cet égard. À ce récit extraordinaire, le comte de Silos, rapprochant toutes les circonstances, ne doute pas que c'est son assassin même qu'il a eu l'audace d'usurper sa place. La conformité de son âge, de son air avec le sien, lui aura favorisé, dit-il, cette exécrable invention. Il brûle donc de se rendre vers les magistrats de Modène et de leur dévoiler l'imposture. Tous ses amis partagent ses intentions, mais ils lui font seulement observer qu'avec un homme de cette trempe, il fallait agir avec autant de prudence que d'adresse. Ainsi, dans cet état de choses, le génie du bien, justement irrité des succès de son mortel antagoniste, agissait sourdement pour reprendre ses droits, que les criminels usurpent quelquefois momentanément, mais qui ne détruisent jamais. Affligé des calamités nombreuses causées par le crime, ce divin génie, dont les hommes ne devraient jamais déserter les sacrés autels, était allé trouver sa céleste sœur, la Vertu, ainsi que Thémis, sa puissante protectrice, sur la terre, afin d'y arrêter les débordements du plus effronté des scélérats. Il était résulté de ces divines conférences le retour à la vie presque miraculeux du comte, l'impuissance des talismans de la séduction et des remords vengeurs qui déchiraient nuit et jour le sein de notre héros. Les hommes, qui croient la plupart du temps agir par leurs propres impulsions, ne sont donc que les machines aveugles des génies invisibles qui les influencent dans leurs bonnes ou mauvaises actions. C'est donc à eux encore à suivre les inspirations de cette divine conscience dans laquelle Dieu a fait luire les lumières de la vertu, et à ne pas se laisser aveugler par la magie trompeuse du génie du mal. Mais, quittons ces allégories, pour épier la conduite de Dom Parelli. Le comte de Silos, suivant son dessein, s'était rendu secrètement avec une bonne escorte à Modène, y avait parfaitement reconnu au théâtre son meurtrier, ayant fait chez le grand juge une déposition circonstanciée de son assassinat dans les Apennins, il attendait depuis quelques jours en silence que la justice eût fait toutes ses dispositions pour prendre Don Parelli et ses complices, en évitant le plus possible l'effusion du sang précieux des hommes qui seraient chargés de cette dangereuse mission. Enfin, après bien des conciliabules secrets, il fut décidé qu'on confierait à la courageuse comtesse de Cardini le soin de contribuer à l'arrestation de notre intrépide brigand. Elle se défit donc peu à peu des airs de rigueur et de sévérité imposante qu'elle lui avait jusque-là témoigné dans ses visites. Ses beaux yeux, à demi consentants, lui apprirent que l'heure de sa défaite allait incessamment sonner, et Don Parelli, devenant plus pressant que jamais, elle consentit un rendez-vous sur les minuits, instant de silence et d'obscurité favorable aux amours, et qui permettrait la présence d'un amant heureux, sans que la comtesse eût à craindre de pouvoir être compromise par les soupçons de ses domestiques. Ce moment terrible, qui doit venger pour toujours le génie du bien dans la personne d'un de ses plus ardents ennemis, et pour Don Parelli, ce moment délicieux où ses yeux cruels doivent se repaître de la vue sanglante de la plus jolie des femmes, est donc arrivé. Quel bonheur, quel délice! Non seulement ce dernier attentat sourit à ses secrètes intentions, malgré l'activité de ses remords, mais il lui donnera désormais la mesure du pouvoir de ses caducées et lui apprendre à quel fond il peut faire à l'avenir sur la puissance de son pacte avec l'enfer. Il s'empresse donc d'être ponctuel au rendez-vous. À la faveur d'une lanterne sourde, il traverse un long vestibule qui conduit au boudoir de la comtesse, et sentant une main douce qui s'empare de la sienne et le guide d'un air mystérieux à travers l'obscurité, il avance à pas silencieux, et enfin, la personne qui le dirigeait venant à disparaître, il se trouve près d'un sofa à couleur de rose, sur lequel reposait notre belle héroïne, seulement vêtue d'un simarre de mousseline brodée en paillettes et en perles fines. Il est nécessaire, pour l'apologie de certaines circonstances ultérieures, de dire que ce sofa, espèce de lit de repos de Vénus, très élevé sur une sorte d'estrade, artistement mais faiblement éclairé par des demi-teintes et des lumières couvertes d'une triple gaze qui ne laissait pénétrer sur tous les objets que des rayons de clarté pâles et incertaines, était en outre comme gardé et entouré d'une galerie demi-circulaire composée de festons de myrte et de pampre qui ne permettait pas d'approcher entièrement la comtesse de Cardini. On concevra mieux dans la suite de cette histoire le motif de ces précautions mystérieuses. Don Parelli, à la vue de cet objet enchanteur, de tant d'appât, demi-nus, d'une gorge qui faisait honte à l'albâtre, ne put d'abord se défendre d'une séduction puissante. Mais se rappelant bientôt toute la férocité de ses premiers projets, surtout ce qu'il devait à l'honneur de ses vœux infernaux, il étouffa dans son âme tout sentiment d'amour et de tendresse pour n'y laisser régner, comme un autre tel lot, que la soif du sang et l'amour du meurtre. Ainsi donc, loin de penser, suivant ses affreuses doctrines, en amant vulgaire, à respirer les soupirs de l'amour sur un sein d'ivoire qui invitait au plus tendre abandon, il ne songea, en audacieux scélérat lancé dans la carrière des grands forfaits, qu'à s'immortaliser par l'attentat le plus étrange qu'un mortel puisse commettre. Dans cet instant, la comtesse, d'une voix languissante, balbutiait les derniers monosyllabes de sa douce résistance, et étendant le bras, par l'effet d'un ressort habilement disposé, pour lui offrir un anneau de diamant et une rose effeuillée. « Que ces emblèmes, lui dit-elle, soient les gages de notre éternel amour. Cette rose était imbibée d'une ligueur narcotique, dont notre héros s'aperçut aussitôt. Car si le génie du mal, son dieu protecteur, échouait quelquefois, tout ce qui était du simple ressort de la subtilité de la séduction n'avait aucune puissance sur Don Parelli, qui était toujours muni de son poignard et de ses caducées. Ainsi, à l'idée seule que la comtesse a voulu le tromper, enivrer ses sens dans de perfides desseins, furieux, sans récrimination, sans examen, il s'élance, rompt la barrière de fleurs, tire son poignard et le plonge à plusieurs reprises dans le sein de la comtesse et se couvre en un instant des jets de sang qui s'en élancent par 20 blessures. Dans sa fureur aveugle, il ne se rend pas d'abord un compte exact du peu de résistance qu'il rencontre, surtout de l'impassibilité de la figure de la comtesse qu'il avait barbarement poignardée et qui cependant n'avait pas changé de visage malgré les coups mortels dont sa poitrine était criblée. Mais quel fut son étonnement quand, venant à examiner le personnage qu'il avait mal considéré dans l'obscurité voluptueuse qui régnait partout, il se convainquit bientôt qu'il n'avait frappé qu'une femme de cire, image parfaite de Madame de Cardini, et pour laquelle la vraie comtesse avait répondu, étant elle-même cachée derrière une glace sans teint, et masqué par des pans de rideaux de soie qui se trouvaient faiblement éclairés par des bougies éloignées avec intention. Tout d'ailleurs à l'égard de ce personnage factice complétait l'illusion, et pour la rendre encore plus forte, le sein de cette figure de cire recelait une outre remplie du sang de quelque animal, ce qui avait plongé notre héros dans une erreur complète. Après le succès complet de cette ingénieuse substitution, la comtesse fit entendre des cris de triomphe et à la fois donna le signal aux gens de justice et aux hommes armés qu'on avait placés dans les chambres voisines afin de fondre simultanément sur Don Parelli. Le péril pour notre héros était sans doute aussi imminent que le coup avait été perfide. Comment se débarrasser de 20 hommes qui, l'épée haute, le pistolet à la main, ayant à leur tête le vindicatif comte de Silos, jetait feu et flamme et menaçait sa vie par le fer et par le feu. Mais Don Parelli, dont la valeur peu commune brille dans le danger et croit par l'infortune, ne s'est pas plutôt convaincu que de son courage dépend son élan, salut, qu'il s'élance, comme le démon qu'il inspirait vers ses ennemis, en poignarde plusieurs, jette au milieu de ses assaillants une boîte préparée qui éclate et les plonge dans la plus profonde obscurité, en éteignant toutes les bougies, et à la faveur d'autres enchantements de sa magie blanche, il parvient à s'échapper de l'hôtel de la comtesse en y laissant ses ennemis dans un stupide étonnement. À peine est-il arrivé chez lui qu'il fait part à Francelli des périls qu'il a courus. Il n'y avait pas un moment à perdre, et parmi les avis que Lucifer donne, il conseille surtout aux criminels la plus grande activité dans leurs expéditions. Don Parelli fit donc seller les chevaux, et après avoir chargé dans ses porte-manteaux ses richesses les plus précieuses, il partit au grand galop avec sa bande, que le vulgaire appela par la suite la bande noire de la femme de cire. C'est ici que Thémis gémit de l'impuissance de ses tentatives. L'enfer en sourit et redouble d'efforts pour mettre son pouvoir en défaut. Don Parelli triomphait, et insensible cette fois à la voix des remords, il rend grâce à ses dieux de leur faveur insigne. Après s'être engagé avec ses petites troupes dans les gorges de Cagliari et s'y être installé dans des grottes impénétrables, il tint un conseil dans lequel il fut arrêté qu'on aurait des intelligences dans Naples, qu'on s'emparerait d'un vieux château à peu de distance de là, occupé alors par un seigneur octogénaire, et qu'on en rendrait les approches tellement dangereuses qu'il faudrait du canon et un siège régulier pour emporter la place. Dom Parelli ajouta qu'il se chargeait du soin de l'enchanter, et il termina son discours avec tant de charlatanisme que ces gens demeurèrent persuadés eux-mêmes qu'ils obéissaient à quelque génie infernal. Massacrer tout ce qui avait vie dans le château dont nous avons déjà parlé, jeter les cadavres dans des fosses profondes, l'entourer de prestiges, d'illusions et d'enchantements de toute nature, fut l'ouvrage de 24 heures pour notre chef de brigand. Les premiers mois se passèrent en brigandage, en assassinats atroces commis sur des voyageurs illustres, sur des ambassadeurs, sur des altesses, qui périssaient victimes de tant d'audace. Et la terreur ainsi que la superstition du vulgaire étaient telles que le peuple était persuadé qu'il était impossible de résister au coup magique du poignard en diamant du magicien de la bande noire. Dom Parelli lui-même, pour fortifier ses croyances fanatiques, faisait attacher ce poignard éclatant à un fanal près d'une des tourelles les plus élevées de son château, et une tête fraîchement tranchée, également fixée par les cheveux, près de ce même fanal, inspirait pendant la nuit un mortel effroi à ceux qui avaient l'imprudence d'en approcher. Dom Parelli, le monstre Dom Parelli seul, était capable d'une idée aussi atroce. Le génie du mal applaudissait au forfait de son favori et le mettait déjà au premier rang des brigands les plus fameux de l'Italie et de l'Espagne. En effet, notre héros comptait déjà 70 meurtres de sa propre main, 50 viols et 20 rapts. Et, pour conserver des preuves de ses infâmes exploits, il arrachait à chacune de ses victimes un œil qu'il plaçait en ligne sur une tablette d'ébène derrière le chevet de son lit, ce qui produisait un effet affreux dans son cabinet secret. Entre autres traits épouvantables de cruauté, Dom Parelli, instruit par ses affidés de Naples du départ pour Rome de la belle Laura, avec son jeune époux, colonel des dragons de la reine, il se promet de fondre sur cette précieuse proie. Effectivement, il lui fut facile d'enlever cette jeune beauté dans sa voiture de voyage, en laissant sur le carreau l'infortuné colonel tout baigné dans son sang. Laura, révoltée des propositions de Dom Parelli, préférait la mort à toute autre situation. Et par une bizarrerie du sort, Dom Parelli ressentait pour la première fois la puissance de l'amour. En vain avait-il employé près de celle qu'il avait subjuguée les prières, les menaces, les promesses. Laura répondait la mort à tous ses discours. Elle ne pouvait jamais envisager sans horreur le meurtrier de son époux, encore souillé de son précieux sang. Cependant, il eût été facile à Dom Parelli d'obtenir de la violence ce qu'il brûlait de recevoir d'un libre consentement. Et cette fois seulement, l'idée de la force et de la brutalité révoltait également son esprit. Laura, respectée, adorée, placée dans un appartement dont elle avait la clé, était donc maîtresse absolue de sa conduite, de ses actions, et ne pouvait pas en secret se défendre d'admirer jusqu'à quel point allait la puissance de l'amour, puisqu'elle venait d'amollir le cœur d'un des hommes les plus féroces de l'Italie. Elle était femme, enfin, et tout affreux qu'était l'hommage, il s'adressait à sa vanité, qui dans son sexe, comme le pardonne, voit rarement avec mépris les plus singulières offrandes. Mais d'un autre côté, comment Laura, le cœur rempli d'une vive passion pour un jeune et charmant époux, aurait-elle pu perdre son souvenir dans les bras d'un assassin? Cette composition, avec son honneur, avec ses sentiments, était impossible. Dom Parelli était donc réduit à gémir, à soupirer, sans espérance. Et ce meurtrier farouche, qui avait plongé un acier homicide dans le sein des femmes les plus intéressantes, pour la première fois versait des larmes, se prosternait même à genoux, et faisait rougir ses compagnons de ses larges faiblesses. Pendant que, nouveau Céladon, il soupire sa flamme méprisée et malheureuse auprès de l'insensible Laura, le marquis de Giacomelli s'était rétabli de ses blessures peu graves, et après avoir excité la tiédeur du gouvernement à venger d'une manière éclatante les crimes de Dom Parelli, après s'être appuyé de tout ce que la renommée avait publié sur les attentats que notre chef de brigand avait commis dans son hôtel à Modène, sur la personne du comte de Silos et mille autres forfaits plus exécrables, il marche vers le château enchanté à la tête de 200 hommes d'infanterie et 150 de cavalerie, persuadé qu'avec ses forces, il parviendrait à détruire non seulement Dom Parelli et toute sa troupe, mais encore le château de fond en comble. D'abord, il investit toutes les issues de ce repaire, place ses postes et s'assure que rien ne peut leur échapper. Ensuite, au plus haut des arbres de la forêt, il fait attacher un drapeau sur lequel on peut lire distinctement ces mots « Amour, espérance ». Cette légende consolante était pour l'infortunée Laura, qui put la contempler, la lire de ses fenêtres et y reconnaître aussitôt, avec la plus vive émotion, l'approche de son courageux époux. Le marquis ne perdait donc pas un instant, jour et nuit, pour assurer sa victoire, reconquérir l'objet chéri de son amour et l'arracher des mains d'un scélérat. Dans cette situation alarmante, les brigands, réunis dans la salle du meurtre, autour du fauteuil de Dom Parelli, dont ils pressent les genoux, le considérant comme leur unique libérateur, lui demandent ses ordres, frappés tous d'un soudain effroi. Et aussitôt Francelli, son fidèle Francelli, ouvrant les portes de la salle avec toutes les démonstrations de la terreur, annonce à son maître que déjà des obusiers sont braqués sur le château, que des fantassins s'approchent du pont-levis et que d'autres charpentent des échelles dans le bois voisin afin de favoriser l'escalade. À tous ces témoignages d'inquiétude et de crainte, Dom Parelli, paraissant animé et protégé d'un esprit infernal, leur parle en ces termes. « Homme vulgaire, pouvez-vous penser à un moment que Dom Parelli n'ait triomphé jusqu'ici que par des moyens connus ? Apprenez, faibles atomes, que d'un mot, d'un seul signe, je peux plonger dans le néant, qu'il m'est aussi facile de faire crouler les voûtes de cette salle que je puis pulvériser d'un regard les ennemis qui m'ont assiégé. Viens donc à moi, ombre protectrice du puissant Asmodée. Fais passer dans mon sein un rayon de tes prunelles de feu et plonge-moi plutôt ce poignard dans le cœur où ne souffre pas que ton plus ardent apôtre soit humilié. » À cette invocation impie, les colonnes de la salle du meurtre s'ébranlèrent. Une odeur de soufre succéda à des coups redoublés du tonnerre, et la lame du poignard de Dom Parelli s'allongea de moitié en jetant mille étincelles et en produisant le frémissement d'un fer rouge qu'on plonge dans l'eau. Sur cette prolongation de la lame se lisait « Pendant 24 heures invincibles ». « Vous le voyez ?» s'écria alors notre héros. « Les enfers me sont favorables et je triomphe du génie du bien !» Ce succès éphémère ne devait pas être de longue durée, tel que toutes les prospérités passagères du crime. Mais cependant, ce dernier effort du génie du mal aux abois n'en produirait pas moins encore de grands désastres, comme il n'arrive que trop souvent dans le monde quand il lutte contre le tribunal de Thémis et le sanctuaire de la vertu. Dom Parelli sentant donc couler dans ses veines un feu corrosif, dans son cœur, dans son esprit des flammes infernales, semble un dieu puissant que désormais rien ne peut vaincre. Il ordonne lui-même à Franzelli d'essayer de lui plonger son épée dans le sein. Fanceli obéit en frémissant. Mais cette même épée plie, se brise comme un faible roseau sur un mur d'airain. Ses yeux seuls lancent la foudre. Ce sont ceux du basilic qui tuent de ses mortels regards. Et d'un signe, il fait naître 1000 pièges, 1000 fantômes, 1000 embûches meurtrières. Le premier sentiment de ce brigand, fils des démons, fut d'essayer sa nouvelle magie sur le cœur de Laura. Mais l'enfer, qui pouvait tout pour le crime, n'avait aucun droit sur l'amour. Laura, toujours inflexible, retranchée dans une des embrasures de son appartement, menaçait de se donner la mort de son stylet si Dom Parelli faisait un seul pas pour l'approcher. Ses forces s'étaient ranimées à l'aspect du précieux signal de Giacomelli, et Dieu et son innocence l'agitaient des plus vives émotions de l'espérance. Sur ces entrefaites, les sons éclatants d'un clairon se font entendre au bas du lampon de vie du château. C'est le marquis lui-même qui, plein de valeur et d'audace, et précédé d'une trompette parlementaire, défie Dom Parelli en combat singulier. D'abord, tous les brigands rejettent ce duel imprudent. Mais leur chef, pour toute réponse, d'un sourire dédaigneux, ordonne qu'on baisse le pont-levis et qu'on laisse entrer le marquis de Giacomelli. Celui-ci, inaccessible à la crainte, ayant toujours sa chère Laura pour mobile de toutes ses actions, entre dans le château, et ni le bruit des chaînes, ni l'aspect sanglant et les débris putrides de 100 cadavres mutilés, déchirés en lambeaux dans les cours, dans les corridors, ne l'empêchent d'entrer intrépidement dans une vaste et sombre salle voûtée qui ne se trouvait éclairée que par les yeux enflammés d'un hibou. Giacomelli n'en est pas plus ému, et si quelque chose peut troubler ses sens, c'est la voix de sa chère Laura qu'il croit entendre. Ce sont ses gémissements plaintifs qu'il croit reconnaître et qui déchirent son âme. À peine est-il au milieu de cette salle voûtée qu'un magnifique fauteuil d'or ainsi qu'une collation élégamment servie paraît comme sous la puissance d'une fée protectrice. « Ce ne sont pas des égards ni des cajoleries que je viens chercher ici, » s'écrie Giacomelli. « J'y viens donner la mort au plus infâme des scélérats, ou la recevoir moi-même de ses mains. » À ce nouveau défi, Dom Parelli paraît seul sans armes, si ce n'est son poignard en diamant qui ne quittait jamais sa ceinture. « Que veux-tu, jeune imprudent ? » dit-il au marquis d'un ton supérieur. Te mesurer avec moi ? Va, ma gloire n'a pas besoin de ce puéril triomphe. Je dois mépriser des lauriers aussi faciles. » Cette déclaration insultante met le marquis hors de lui-même, et se sentant affranchi de toutes les lois de l'hospitalité par le rapt de son épouse, il n'écoute plus que sa juste fureur. Il se croit même appelé à venger en ce jour les lois, la patrie, l'humanité entière, et tirant les pistolets de sa ceinture, il les décharge à la fois sur la poitrine de Dom Parelli. Les échos répètent avec un fracas horrible la détonation multipliée dans les parties caverneuses du château. Mais Dom Parelli, l'invulnérable Dom Parelli, est resté calme, le sourire sur les lèvres, au milieu des nuages de la poudre qui se dissipe devant son visage, et présentant dans sa main au marquis les balles lancées à bout portant sur sa personne. « Tiens, Giacomelli, fais-en désormais un plus sûr usage et cesse d'avoir la témérité de t'attaquer à moi. » Le marquis, confus, ne pouvant rien entendre en ce prodige, se retira donc désespéré. Et ce qui brisait le plus son cœur sensible, c'était l'idée de ne pouvoir arracher des fers d'un scélérat sa bien-aimée, sa chère Laura. En repassant le pont-levis, il aperçut plusieurs de ses vedettes et de ses sentinelles aux prises avec des dragons volants, assaillis par des serpents énormes, et partout ses troupes se trouvaient victimes d'un enchantement infernal. Toutefois, c'est en vain que ses compagnons lui conseillent d'abandonner une expédition aussi périlleuse et de laisser à la Providence le sort de l'infortuné Laura. Giacomelli, loin de se rendre à ses raisons spécieuses, ne voit qu'un triomphe éphémère dans tous ses prestiges, et les lois divines lui donnent en secret l'assurance que l'équité seule peut rester victorieuse. Il se borne donc à retirer dans l'épaisseur de la forêt son petit camp et à ne faire de nouvelles tentatives qu'au bout de 24 heures expirées. C'était le terme de la puissance de Don Parelli, terme auquel son imprudence et sa fausse confiance ne lui avaient pas assez fait porter d'attention. Les premiers rayons de l'aurore doraient donc à peine la cime des arbres, que Giacomelli, rassemblant et redisposant ses troupes pour un assaut général, s'avance le premier avec intrépidité vers le pont-levis, comble les fossés de fascines et, muni d'une échelle, monte le premier, l'épée à la main, sur le haut des murailles. Ce succès enhardit les soldats qui, n'étant plus terrifiés par des enchantements, pénétrèrent avec fracas, avec fureur, dans toutes les parties du château. La seule crainte de Giacomelli était que sa chère Laura ne devint la première victime de sa victoire et que les brigands se vengeassent leur perte par son trépas. Mais le génie du bien veillait sur elle, et elle-même, s'étant fait une échelle de corde, s'était élancée de ses fenêtres du côté des assiégeants. Déjà, Franzelli et la majeure partie des brigands de la bande noire ont mordu la poussière. Dom Parelli, seul contre tous, semblable à un vieux chêne que les autans veulent vraiment déraciner, combat malgré qu'il soit couvert de blessures. Il appartenait seul au marquis de verser ce sang odieux. Il fit donc feu sur lui et lui perça le cœur de 3 balles. Cette victoire remportée, son premier sentiment fut d'aller se précipiter vers la prison de Laura. Mais celle-ci, animée de vengeance, électrisée du bonheur de revoir son époux, n'avait pas voulu se tenir à l'écart dans cette attaque. Elle accourait au contraire pour partager les dangers de son mari, qui la pressa sur son sein avec les plus vifs transports de tendresse. Aucun brigand n'ayant échappé à la justice des hommes, le marquis fit d'abord transporter hors du château tous les trésors qu'on avait trouvés dans les souterrains, fit placer le corps de Dom Parelli sur une civière, puis ordonnant qu'on sonne à la retraite, il reprit avec tout son monde la position de son camp, après avoir fait sauter le château au moyen d'une grande quantité de barils de poudre. Ses dispositions prises, il s'arma d'une hache et trancha lui-même la tête de Don Parelli, surnommé Bocca Negra, et la fit attacher devant un phare au mât le plus élevé qu'il put trouver dans la forêt, afin d'enseigner au peuple et aux voyageurs l'éclatante punition d'un des brigands les plus redoutables de l'Italie, qui n'avait eu tant de puissance que par le pacte qu'il avait fait avec Asmodée. Dom Parelli subit donc la peine du talion. Son poignard magique, que les plus intrépides de ses soldats n'osaient considérer qu'en tremblant, dépouillé désormais de tous ses prestiges, n'était plus un talisman dangereux. Thémis lui avait ôté son enchantement homicide et d'un seul regard avait fait rentrer dans le néant les puissances malfaisantes qui avaient trop longtemps usurpé son règne. Ainsi, l'Italie, délivrée d'un des plus grands fléaux, respira donc en quelque sorte un air plus pur que le crime n'infestait plus de son haleine empoisonnée. Giacomelli et ses compagnons de gloire furent grandement récompensés par le prince. Et si la terreur qu'avait répandue Dom Parelli, le chef invincible de la bande noire, et la femme de cire, ne se dissipa que bien longtemps après, on n'en parla plus aussi sans rappeler les exploits du libérateur qui avait su détruire ce monstre, vomi des enfers.